VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mercredi 28 octobre 2015, au sommaire ce soir.
Présidentielle ivoirienne, la commission électorale proclame Alassane Dramane Ouattara vainqueur avec plus de 83% des suffrages. Il est suivi du candidat Pascal Affine-Guessan du FPI.
Je prends acte de ce résultat et je lui adresse mes félicitations.
Le cycle de la violence continue au Burundi. Les victimes augmentent à Bujumbura et dans l'intérieur.
La police indique qu'un couple qui a des enfants de 3 ans et 10 mois a été assassiné mardi soir dans le quartier de Kamenge au nord de Bujumbura.
République centrafricaine, retour au calme à Bangui et nomination des nouvelles têtes de l'ANE, l'autorité nationale des élections.
Ici aux États-Unis, les candidats républicains à la présidentielle de 2016 se préparent pour leur troisième débat ce soir dans le Colorado.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Présidentielle ivoirienne, les résultats sont enfin connus, sans surprise. C'est le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, qui l'emporte dès le premier tour. Nous avons sur place à Abidjan, Tatiana Mousseau.
Le suspense n'aura pas été réel, sans surprise pour le candidat du RHDP Alassane Ouattara qui remporte dès le premier tour cette élection avec 83,6% des suffrages. Le président sortant a obtenu le second mandat convoité et ce, très loin devant ses adversaires. Derrière lui, pas un seul des autres candidats ne dépasse les 10%. Arrivé en deuxième position avec 9,25% des voix, Pascal Affine-Guessan du FPI, le Front populaire de l'ancien président Laurent Gbagbo. Troisième position, Kwadio Konan-Bertin avec un minimum de 3,84%. Les différents candidats ont tous reconnu leur défaite. La proclamation qui aura tenu en haleine tout le pays a été nettement plus rapide que celle d'il y a 5 ans et dans un contexte plus apaisé. Quant à la polémique sur le taux de participation, la CEI a revu sa copie, annonçant finalement 54,63% de taux de participation contre les 60 annoncés plus tôt. Tatiana Mosso à Abidjan pour VOA Afrique.
Réagissant à la publication de ses résultats, le candidat Pascal Affine-Guessan, arrivé en deuxième position, a reconnu sa défaite et salué la réélection du président Ouattara, malgré ce qu'il appelle des points faibles et des signes de division. On l'écoute.
Le candidat Alassane Ouattara a remporté l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Je prends acte de ce résultat et je lui adresse mes félicitations. Je note cependant que les résultats affichés et les scores des candidats dans les différentes régions dressent le tableau d'un pays encore sous le traumatisme de la guerre. Des taux de participation records, 80 à 100% dans des zones encore récemment occupées par la rébellion armée de 2002 et où le candidat du RHDP réalise des scores avoisinant les 100%. Ce n'est pas un signe de santé démocratique, mais plutôt la traduction d'une prise en otage et d'une absence de la liberté d'expression et d'opinion dans ces régions.
L'homme politique ivoirien Pascal Affine-Guessan. En seconde partie d'émission, nous écouterons quelques réactions dans les rues d'Abidjan.
Au Niger, nouvelle attaque imputée aux islamistes de Boko Haram à Diffa, une région qui a subi plus d'une dizaine d'attaques transfrontalières du groupe nigérian depuis le début de l'année. Les précisions sur la dernière incursion avec Didi Diko.
Dans la nuit de mardi à mercredi, 13 civils ont été égorgés à Ala, un village du département de Diffa, dans le sud-est du Niger. 3 autres personnes ont été blessées par balle dans cette incursion attribuée à des membres du groupe Boko Haram. Selon Massaoudou Lawal, journaliste dans la région de Diffa, les assaillants sont arrivés à Ala aux environs de 20h et sont repartis peu après avoir commis les exactions. Ils se sont retranchés de l'autre côté de la frontière, au Nigeria, après avoir traversé une mare servant de démarcation naturelle entre les deux pays. L'attaque semble avoir été orchestrée par les militants islamistes de Boko Haram. Cependant, il n'y a pas eu de confirmation officielle pour l'instant. Niamey n'ayant pas encore publié de communiqué, les réactions des autorités devraient tomber dans le courant de la soirée.
Libération au Nigeria de plus de 300 femmes et enfants retenus en captivité par Boko Haram. D'après l'armée, 338 personnes ont été secourues lors d'une opération militaire menée hier mardi contre un des repères du groupe islamiste dans les villages de Boulajiline et Manawaché, en bordure de la forêt de Sambisa, dans le nord-est du Nigeria.
Au Burundi, 10 personnes ont été tuées mardi dans plusieurs quartiers de Bujumbura et dans l'intérieur du pays. La violence s'accentue alors que l'Union africaine, l'Union européenne et d'autres entités de la communauté internationale appellent à un dialogue inclusif, soit à Kampala, soit à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Le point avec notre correspondant Christophe Kourounziza.
La police indique qu'un couple qui a des enfants de 3 ans et 10 mois a été assassiné mardi soir dans le quartier de Kamenge au nord de Bujumbura. Ces jeunes mariés venaient de fermer leur boutique qui se trouve à la gare du Nord qui mène vers le Rwanda et l'intérieur du pays et un groupe d'hommes en armes ont tiré sur le mari qui est mort sur le champ tandis que sa femme est décédée à l'hôpital. Un autre cadavre a été trouvé dans le quartier d'Ngagara mardi alors que des tirs à l'arme automatique et lourde étaient entendus tout l'après-midi jusque tard dans la nuit. Entre-temps, les autorités administratives de la province de Gitega au centre du Burundi, affirme qu'un groupe de plus de 20 individus armés ont attaqué le même mardi une position policière. D'après le bilan donné par le gouverneur venant Manirambona, ces insurgés ont été directement tués. La police serait à la recherche de ces insurgés qui sèment la peur et les pleurs parmi la population. Il est à noter que dans la nuit de dimanche à lundi, des hommes armés ont attaqué une position policière se trouvant au centre jeune de Kamenge. Un civil aurait été tué et un policier blessé, selon la police. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En République centrafricaine, les nouveaux responsables de l'autorité nationale des élections ont été désignés ce mercredi. Le président et le vice-président de l'institution avaient démissionné entre août et octobre dernier. Par ailleurs, le calme semble revenir à Bangui après les violences de début de semaine. Freeman Sipila.
Le nouveau bureau de l'Autorité nationale des élections, ANE, a été dévoilé ce mercredi après-midi à l'issue d'une plénière de l'institution. Le bureau est désormais au grand complet après la double démission entre août et octobre 2015 de Godefroy Mukamanadi et de Dieudonné Kumbuyaya, respectivement vice-président et président de l'institution. Aujourd'hui, c'est donc une femme, Marie-Madeleine Ornayarkoué, ancien rapporteur général, qui est choisie présidente de l'ANE. Elle est secondée à la vice-présidence de Bernard Pongaba, jusque-là, président de la Commission des opérations électorales. Le poste de rapporteur général revient à Julius Rufengwa Dibaba, entre-temps président de la Commission logistique et porte-parole dans le bureau initial. Pas de modification pour les 4 autres postes, en dehors de René Sakanga qui fait son entrée à la présidence de la Commission logistique. Pour Julius Rufengwa Dibaba, nouveau rapporteur général, l'actuelle équipe fera tout pour respecter le nouveau chronogramme électoral attendu. Par ailleurs, le calme est revenu à Bangui après les violences de lundi à mardi, occasionnant la mort d'au moins 7 personnes. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En Tanzanie, les résultats des élections générales sont dans l'incertitude. Le scrutin a été annulé à Zanzibar, archipel semi-autonome de l'océan Indien. D'après Jecha Salim Jecha, président de la commission électorale locale, il y a eu des fraudes. Les élections générales ont donc été invalidées et un nouveau scrutin doit avoir lieu à Zanzibar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie intensifie ses frappes en Syrie contre le groupe État islamique, mais aussi d'autres entités qualifiées de terroristes par le gouvernement de Bachar al-Assad. Ces dernières 24 heures, les bombardements ont atteint un niveau sans précédent, 118 cibles ayant été visées, selon les autorités russes citées par l'AFP. L'aviation russe dit notamment avoir détruit un poste de commandement du plus important groupe rebelle syrien dans la province de Damas. D'autres attaques ont eu lieu à Alep et dans la province d'Idleb.
Un Palestinien a été abattu par la police israélienne suite à une tentative d'attaque au couteau contre un soldat près de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. C'est ce qu'indique l'armée israélienne. Citant la même source, l'AFP informe qu'un Palestinien a légèrement blessé une Israélienne au couteau devant un supermarché entre Bethléem et Hébron. La violence s'est accrue entre Palestiniens et Israéliens depuis le 1er octobre.
Toujours en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé ce mercredi qu'il ne laisserait aucun député ou ministre pénétrer sur l'esplanade des mosquées. L'interdiction s'appliquait à tous les députés juifs et arabes, mais semblait surtout viser les membres juifs du gouvernement et du Parlement. L'AFP rappelle qu'elle intervient après qu'un député arabe-israélien a annoncé s'être rendu sur le site, saint pour les juifs et les musulmans, extrêmement sensible. En Turquie,
Les procureurs ont annoncé aujourd'hui que le double attentat du 10 octobre qui a fait 102 morts à Ankara était l'œuvre des djihadistes du groupe État islamique. Ces attaques visaient un rassemblement pour la paix organisé par des militants kurdes et des policiers turcs de gauche. Des politiciens, pardon.
Présidentielle américaine de 2016, les candidats républicains se retrouvent ce soir pour leur troisième débat. Ce sera à Boulder, dans le Colorado, un débat qui intervient alors même que Donald Trump, jusqu'ici en tête des sondages, a perdu sa place de leader. John Lennon.
Un sondage réalisé par le New York Times et CBS et publié mardi indique que 26% des républicains seraient prêts à accorder leur vote à Ben Carson contre seulement 22% des voix pour Donald Trump. Jeb Bush, le frère de l'ancien président George Bush, n'obtient que 7% des suffrages. C'est donc avec ces chiffres en tête que les candidats républicains se retrouveront ce soir pour leur troisième rencontre du genre. Organisée par la chaîne de télévision CNBC, ce débat qui aura lieu à Boulder, dans le Colorado, mettra aux prises 10 candidats. Hier, Donald Trump a supplié les électeurs de l'Iowa de l'aider à remonter dans les sondages. Il a dit qu'il ne fera pas de cadeau au Dr Ben Carson. On suivra aussi les autres candidats et l'on attend de voir si la chaîne CNBC battra son record d'audience, ainsi que l'ont fait récemment CNN et Fox News.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec ce soir Anastasie Tudiesch.
La société Total et son associé Babyloan, plateforme européenne de microcrédit solidaire, viennent d'annoncer le lancement d'un projet pour financer l'accès à l'électricité dans les pays nécessiteux avec deux objectifs. Financer à l'horizon 2017 2000 micro-entreprises dans une douzaine de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine et soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution auprès des populations isolées. Le spécialiste de la distribution CFAO se prépare à ouvrir son premier centre commercial à Abidjan avant la fin de l'année. 8 autres pays africains devraient bientôt, eux aussi, accueillir les centres commerciaux de l'enseigne qui s'associent avec Carrefour pour cette opération. Le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Sénégal. Le groupe s'est par ailleurs associé au géant des cosmétiques L'Oréal pour la production et la distribution de produits cosmétiques en Côte d'Ivoire. La firme indienne Tata veut investir en Côte d'Ivoire et a annoncé des investissements d'un montant total de 300 milliards de francs CFA, soit 500 millions d'euros, d'ici à fin 2016 dans l'hôtellerie, les mines et le transport. Les premiers projets devraient être finalisés courant novembre 2015.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie Tudiesch.
Les sports avec Nicolas Pino. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
L'embarras du choix pour l'athlétisme kényan en vue des Jeux Olympiques de 2016.
La fédération kényane renonce à organiser un marathon pour sélectionner les athlètes qui parcourront la distance à Rio pour les Jeux Olympiques d'été l'année prochaine. Les marathoniens kényans sélectionnés le seront sur la base de leurs résultats à venir. Seront pris en compte les Mondiaux 2015 qui ont eu lieu en août dernier, les marathons de Tokyo, de Londres, de Berlin, de Chicago et de New York et dans d'autres marathons organisés avant le 30 avril 2016.
Et Didier Drogba en piste pour les playoffs en Major League Soccer.
À 37 ans, Didier Drogba et son club de Montréal seront opposés ce jeudi à Toronto lors de la phase finale de la Ligue nord-américaine. L'attaquant ivoirien n'a disputé que 11 des 34 matchs de la saison régulière avec Montréal. Mais avec ses 11 buts, il est le grand artisan de la troisième place de son équipe dans la conférence Est.
Tennis, master féminin de Singapour.
L'Espagnol Garbine Muguruza, numéro 3 mondial, s'est rapproché des demi-finales du Masters féminin en enlevant son deuxième succès en deux rencontres. Elle bat l'Allemande Angélique Kerber, le score 6-4, 6-4.
Le grand retour de la NBA la nuit dernière.
Le champion en titre n'a pas fait de détails lors du coup d'envoi de la saison 2015-2016 du championnat nord-américain de basket. Golden State a surclassé la Nouvelle-Orléans 111-95. Les Cavaliers de Cleveland, LeBron James, l'un des favoris pour le titre, ont eux débuté la saison comme ils avaient terminé la saison précédente par une défaite. Morgan, les Cavaliers ont chuté d'entrée à Chicago 95-97. Enfin, la dernière rencontre de la soirée a vu Atlanta, finaliste de la conférence Est la saison dernière, tomber à domicile face à Détroit 106-94.
Voilà pour les sports, merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerriec et Chérubin Dorcil en votre compagnie, place au dossier du jour, première escale, la Côte d'Ivoire.
C'est une victoire sans appel pour le candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Avec 83,6% des suffrages, le président sortant obtient donc son deuxième mandat, très loin devant ses adversaires. Ce matin, les Ivoiriens ont découvert les résultats proclamés dans la nuit. Et Tatiana Mousseau, notre envoyée spéciale à Abidjan, leur a tendu son micro.
Les résultats ont été donnés normalement et nous en sommes heureux. Bon, les résultats sont sans appel. À ce niveau, je n'ai pas de souci parce qu'on peut demander un recomptage de voix lorsque l'homme même reconnaît sa popularité. Quand on voit la distance de 83%, le deuxième qui suit à 9%, je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci puisqu'il n'y avait pas de force majeure dans cette élection. Ce qu'on demande surtout, c'est qu'ils se mettent tous ensemble pour l'intérêt du pays. Il ne faut pas que chacun regarde ce qu'il aurait pu gagner en devenant président et autres. On doit regarder l'intérêt du peuple ivoirien pour qu'on puisse avancer.
C'est vrai que nous avons assisté à un taux de participation qui n'est pas aussi élevé. Mais le plus important, c'est qu'il y a un président qui a été élu. Et qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous devons tourner la page de la violence et puis aller de l'avant. Je pense que tous les candidats qui ont participé à ces élections doivent accepter les résultats. Et dans tous les cas, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je voulais personnellement m'adresser au président de la République. Je souhaite vraiment que son combat soit celui de la réconciliation, une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, nous avons participé aux élections pour prouver au monde entier que le Front populaire ivoirien n'est pas un parti de tueurs, mais un parti de paix. Le résultat des élections ne nous étonne pas, parce que c'est la même chose qui s'est passée en 2010. Mais nous voulons que la paix revienne dans notre pays et que nous arrivions à nous parler les uns les autres. Moi aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Ouattara, mais nous espérons beaucoup de lui, qui nous aide à faire revenir celui qui l'a envoyé à La Haye pour reconstruire la Côte d'Ivoire ensemble.
Je me réjouis parce que dans ce sens-là, je pense que les Ivoiriens vont comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et puis, je demande à tous les Ivoiriens d'accepter ce résultat, puisque ce résultat est vraiment cohérent et...
Propos recueillis par Tatiana Mousseau, notre envoyée spéciale à Abidjan.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Une rétrospective des dernières élections en Afrique et un avant-goût des autres à venir. Dans certains pays, la question du troisième mandat fait toujours débat. Qui sont ces présidents qui s'accrochent au pouvoir? Mettent-ils en péril la paix dans leur pays? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Nous mettons cap sur le Bénin qui se prépare aussi à élire son président. Les candidats se font connaître et exposent comme si c'était déjà le moment de convaincre leurs arguments. Les personnalités déjà acquises à cause du président Thomas Boniayi multiplient les sorties médiatiques et appellent à l'union autour d'un candidat capable de conduire le Bénin à l'image du chef d'État. Reportage à Cotonou de Ginette Fleur-Adandé.
Le Bénin se prépare à vivre un tournant décisif de son histoire politique, choisit le successeur de Thomas Boniayi à la tête du pays. Et en attendant que les hostilités ne soient vraiment déclenchées, les acteurs politiques se livrent déjà une guerre sournoise. Les jeunes acquis à la cause du chef de l'État à travers maintes sorties médiatiques appellent les militants à resserrer les rangs pour des victoires encore plus grandes.
L'inédit doit se reproduire comme en 2011. FCBE est allié, deuxième coup, KO. Le Bénin a besoin d'un homme visionnaire et qui sera à l'écoute du peuple. Cet homme doit sortir de nos rangs, les rangs de la mouvance présidentielle au pouvoir.
Le message est surtout un avertissement à l'endroit des opérateurs économiques qui pensent s'asseoir dans le fauteuil présidentiel le 6 avril prochain. Le plus visé reste l'homme d'affaires Patrice Talon, qui, à travers médias interposés, a été clair dans ses intentions.
Il faut reconnaître que le Bénin est présentement dans une passe difficile. Dans un tel contexte, il n'est pas impertinent de souhaiter qu'un homme ayant à la fois les réflexes du management entrepreneurial et la connaissance du milieu politique prennent la main pour rassembler afin d'opérer les mutations qui s'imposent.
Mais il n'est pas le seul à essuyer les injures des jeunes de la mouvance présidentielle. Il y a aussi le général Robert Guyan, ancien directeur de cabinet militaire du chef de l'État, aujourd'hui candidat aux élections présidentielles.
Aujourd'hui, à mes yeux, l'urgence porte sur le chantier névralgique de l'unité nationale et de la paix sociale. Ensuite, suivent d'autres préoccupations d'importance vitale dont notamment la recherche du bien-être de tous les Béninois et l'eau potable, l'électricité, en tout cas, met tout en œuvre pour que chaque Béninoise vive mieux.
Pour le moment, aucun regroupement de partis politiques réservoir des ténors de la scène politique béninoise n'a encore son candidat. Pour les politologues, cela se comprend aisément quand on prend en compte la pagaille qui s'observe dans l'animation de la vie politique.
Cette manifestation que nous observons actuellement est normale, mais ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des gens qui ont été bien annoncés mais qui ne seront pas là au moment opportun. C'est très sûr.
Dans un jeu politique où les partis politiques n'ont pas les moyens de donner leur point de vue sur des situations, ça pose un problème. Dans un pays où la transhumance politique n'est pas une question condamnée et condamnable, ça pose un problème.
Combien seront-ils sur le point de départ pour les présidentielles de février 2016? Seuls les jours à venir pourront situer les Béninois qui, pour le moment, sont quelque peu perdus dans le flou qui s'observe. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Au Mali, une campagne militaire qui doit durer 3 mois pour traquer les terroristes a été lancée dans la région de Mopti, au centre du pays. Les populations de Gao saluent cette initiative de l'armée malienne. La correspondance de Boubacar Touré.
Depuis la libération des régions du Nord en 2013, grâce à l'intervention de l'armée française, c'est la plus grande offensive de l'armée malienne contre les terroristes. Dans la région de Gao, les populations apprécient cette initiative qu'elles saluent à juste titre d'ailleurs.
Bien vrai qu'il y a eu des accords en Alger et les accords de Bamako. Chaque fois, il y a des attaques, des enlèvements de véhicules sur la route de Mopti. Ça veut dire qu'il y a des sectes de ces mouvements terroristes qui sont là à étouffer notre République et nous empêche d'avoir la paix que nous voulons. Vraiment, je suis très content de cette offensive. J'aimerais aussi qu'on étende ça sur le reste du pays, surtout au nord encore.
L'armée, il a pris beaucoup de retard parce que les patries là qu'ils sont en train de faire là, il y a longtemps qu'ils devraient faire ça, vraiment, parce qu'à 25 km de Gao, on ne peut pas circuler. Chaque fois on tire, les gens posent des mines, chaque fois les gens sont victimes de vraiment, donc les patries doivent continuer.
La dotation de matériel nécessaire de guerre et la collaboration de populations sont tout à fait indiquées pour la réussite de cette vaste opération contre les terroristes.
Nous avons des hommes, mais nous on n'a pas de matériel de guerre. Nous voulons que l'État malien nous paye des hélicoptères blindés pour la surveillance de la route Mopti-Gao et tout le nord du Mali si possible. Ensuite, doter les forces d'engins blindés pour faire face, n'est-ce pas, à ces terroristes qui sont en train de nous étouffer dans notre vie quotidienne.
L'armée malienne est capable à elle seule de mettre hors de danger, les djihadistes. Il faut l'information. Et cette information, qui sont les populations civiles seulement qui peuvent aider à donner cette information. Chacun a peur de dénoncer l'autre, de peur d'être traqué. Parce que si moi je dénonce demain ou après-demain, j'ai peur d'être dans les mailles de ces djihadistes.
On peut avoir une solution à partir du cantonnement. S'ils sont cantonnés, on saura en ce moment qui est parmi ce groupe, qui est rebelle et qui est djihadiste. Le cantonnement est solitaire.
En tout cas, c'est des éléments de l'armée malienne, de la gendarmerie et de la garde nationale qui doivent mener cette vaste opération contre les terroristes qui continue malheureusement encore à troubler la tranquillité des paisibles populations. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
La journée mondiale de la vie, c'est le 30 octobre prochain. En prélude à cet événement, le Cameroun organise une semaine d'activités avec des marches de soutien à la femme enceinte et au bébé dans ce pays où le taux de mortalité maternelle et infantile est plutôt élevé. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Pendant toute une semaine, une série d'activités est organisée avec les marches de soutien à la femme enceinte et les bébés. François Manfred Ekindi, président de l'association humanitaire Programme spécial Femmes enceintes, explique l'importance de la marche.
Nous avons organisé la marche sportive contre la mortalité maternelle et infantile en marge de la journée mondiale de la vie en vue d'attirer l'opinion nationale et internationale sur le problème de la femme enceinte. Parce que le taux de mortalité maternelle et infantile est très élevé dans les pays d'Afrique par rapport aux pays européens. Nous avons commencé par la marche sportive. Lundi 26, la publication du tableau d'honneur des meilleures maternités du Cameroun. Mardi 27 jusqu'au vendredi 30, nous avons des consultations prénatales gratuites, des examens gratuits pour femmes enceintes.
Pour de nombreuses personnes qui viennent prendre part au marche, il est important de rendre un hommage à celles qui donnent la vie.
Moi, c'est Joël et Marius. J'ai depuis que je pratique d'abord le sport, mais je suis venu là parce que aussi ma maman, je veux aussi encourager ma maman dans ce sens-là.
Je m'appelle Bouga Blorette. Vous savez, quand on aime sa vie, il faut aimer la vie des autres. On a dit Journée mondiale de la vie. Ça veut dire qu'il faut marcher pour que les gens apprécient de donner la vie, pour que les gens respectent la vie des autres, pour que les gens s'aiment eux-mêmes et ils respectent toutes les vies.
Au Cameroun, les statistiques montrent que 782 femmes sur 100 000 meurent en donnant la vie. Seuls 35% des femmes enceintes font les consultations prénatales, moins de 15 en zone rurale. Madame Fotsou Julien, infirmière aux urgences à l'hôpital gynéco de Yaoundé, témoin.
Je suis aux urgences de l'hôpital gynéco. Nous vivons cette situation tous les jours où les femmes meurent de clamsie. Quand il y a une marche comme ça, vraiment, il faut encourager.
Les appels sont à cet effet lancés à l'endroit des pouvoirs publics pour la prise en charge effective et objective de la femme enceinte, selon François Manfred Ekindi.
Je tiens d'abord à dire que moi-même, j'ai vécu une histoire personnelle parce que ma première femme est décédée en 2004 au CH de Yaoundé, de suite à l'éclampsie. C'est ça ma principale motivation. Et puis, à côté de moi, j'ai eu des amis, j'ai eu des parents qui ont également perdu des femmes enceintes.
Toutes les femmes qui accouchent ont droit à la vie, d'autant plus que c'est elles qui nous la donnent au péril de la leur. Selon les organisateurs, Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, International Music, Comédie, Country Music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
VOA Afrique, un rappel des grands titres de l'actualité aujourd'hui. Présidentielle ivoirienne, les résultats sont enfin connus. Sans surprise, c'est le président sortant Alassane Dramane Ouattara qui l'emporte dès le premier tour. Réagissant à la publication de ces résultats, le candidat Pascal Afinguessan, arrivé en deuxième position, a reconnu sa défaite et salué la réélection du président Ouattara. Au Niger, nouvelle attaque imputé aux islamistes de Boko Haram à Diffa, une région qui a subi plus d'une dizaine d'attaques transfrontalières du groupe nigérian depuis le début de l'année. Libération au Nigeria de plus de 300 femmes et enfants retenus en captivité par Boko Haram. D'après l'armée, 338 personnes ont été secourues lors d'une opération militaire menée mardi contre un des repères du groupe islamiste. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Présentation, Morgane Guiriec et Chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.